RFI, il est minuit ici à Paris, 20h à Helsinki. Merci d'écouter RFI. Et c'est le journal de Simon Bourtembourg. Bonsoir Simon.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et à tous. Les alliés de Kiev affichent leur unité sur les sanctions contre la Russie. Les dirigeants d'une trentaine de pays étaient réunis ce jeudi pour un sommet sur la guerre en Ukraine. Nous le verrons, des questions demeurent encore sur les futures garanties de sécurité pour Kiev. Les bourses mondiales souffrent après l'annonce de nouveaux droits de douane américains sur l'automobile. Nous le verrons, le secteur craint une escalade de la guerre commerciale à l'échelle mondiale. À la une de cette édition également, la Banque du Liban qui se dote d'un nouveau gouverneur. C'est un gestionnaire de patrimoine qui a été choisi pour mener les futures négociations avec le FMI pour débloquer une aide financière. Et puis, en fin d'édition, nous vous amenons au festival Africa Capital qui se tient à Paris jusqu'à la fin de semaine. Les alliés de Kiev ne lèveront donc pas les sanctions émises contre la Russie. La décision a été prise à l'unanimité des représentants d'une trentaine de pays réunis ce jeudi à Paris. La Russie ne veut aucun type de paix, a soutenu Volodymyr Zelensky, présent également à cette réunion qui a donc duré 3 heures. À l'issue de ce sommet dans la capitale française, le Premier ministre britannique Keir Starmer a lui salué une mobilisation inédite de l'Europe depuis des décennies.
Nous maintenons un soutien accru à l'Ukraine pour s'assurer qu'elle est dans la position la plus forte possible, à la fois maintenant et dans les négociations à venir. Deuxièmement, il est tout à fait clair que le moment n'est pas venu de lever les sanctions, bien au contraire. Ce dont nous avons discuté, c'est de la manière dont nous pouvons renforcer les sanctions pour soutenir l'initiative américaine visant à amener la Russie à la table des négociations par le biais d'une pression accrue de la part de ce groupe de pays.
Keir Starmer, qui aux côtés d'Emmanuel Macron, pilotera donc les efforts de cette coalition de pays qui comprend également des États européens mais aussi le Canada. Par ailleurs, une mission franco-britannique se rendra dans les prochains jours en Ukraine, et ce notamment pour préparer un possible déploiement de forces de plusieurs pays européens alliés après un éventuel accord de paix. Ils sont disparus depuis plus de 48 heures. 4 soldats américains en exercice dans une base en Lituanie restent donc introuvables. Leur véhicule a lui été retrouvé dans un marécage situé aux côtés d'un lac, mais aucune trace toujours des soldats. Tous les scénarios sont donc désormais envisagés, assure la ministre lituanienne de la Défense. Les détails de l'enquête avec Romain Lemareski.
Ces 4 soldats américains qui ont disparu ce mardi étaient en Lituanie depuis 2 mois dans le cadre de leur mission avec l'OTAN. Ils participaient à des exercices dans l'est du pays, près de la frontière avec la Biélorussie, plus précisément un entraînement tactique programmé selon le service de presse de l'armée américaine. Et c'est au cours de ces manœuvres que leur véhicule de dépannage, un M88 Hercule qui pèse plusieurs dizaines de tonnes, s'est enfoncé d'environ 5 mètres dans la boue. Durant toute la nuit de mercredi à jeudi, des travaux ont été réalisés pour tenter de drainer la zone, des routes ont été mises en place pour permettre d'acheminer des engins lourds, mais tous ces efforts entrepris par les Américains et les Lituaniens n'ont pas permis à l'heure actuelle d'accéder aux véhicules. Selon la ministre lituanienne de la Défense, il est impossible de confirmer si les soldats se trouvent à l'intérieur du véhicule. Ce jeudi, une force d'intervention composée d'une dizaine de soldats polonais avec des équipements lourds et de plongée sont arrivés sur place, l'idée étant toujours de localiser les 4 soldats disparus et d'extraire le véhicule du marécage.
La précision signée Romain Lemaresquier du service international de RFI. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable pour le Canada. C'est Mark Carney qui l'affirme, allant jusqu'à déclarer que le temps de la coopération étroite avec Washington est fini. La prochaine rencontre entre le Premier ministre canadien et le président américain promet donc d'être tendue. Elle aura lieu dans 1 ou 2 jours et à la demande des États-Unis, a précisé Mark Carney. Entre les deux hommes, il sera bien sûr question des droits de douane que l'administration américaine veut mettre en place depuis le retour de Donald Trump. Les dernières annonces en date concernent le secteur de l'automobile. Toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis seront taxées à 25% à l'importation à partir de mercredi prochain. D'ici là, Donald Trump peut encore changer d'avis, mais l'industrie automobile européenne craint une escalade de la guerre commerciale. Jonathan Oriodrian est directeur du commerce international et des douanes pour l'Association des constructeurs européens de l'automobile.
On prend souvent l'exemple de la BMW X5 qui est fabriquée en Caroline du Sud. La marque allemande a une usine là-bas depuis près de 30 ans. Ce modèle n'est fabriqué qu'aux États-Unis et il est ensuite exporté partout dans le monde. L'une de nos préoccupations majeures, c'est qu'il y ait une escalade. Des pays comme le Canada ont déjà annoncé des mesures de rétorsion. L'Union européenne se prépare également à contre-attaquer. La situation monte en intensité et nous craignons que des pays tiers imposent eux aussi des droits de douane sur les exportations américaines de véhicules européens. C'est un risque supplémentaire malheureusement, que ces voitures européennes fabriquées par des usines américaines soient elles aussi la cible de mesures de rétorsion. Ce serait un triple coup dur pour nous.
Des propos recueillis par Mélissa Barra de la rédaction en espagnol de RFI. Une délégation égyptienne est à Doha pour des pourparlers sur un retour au cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Au Qatar, il est aussi question de nouveaux échanges de prisonniers palestiniens contre des otages à Gaza. Par ailleurs, dans le contexte de la reprise de l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne, l'ONU prévient que les réserves d'alimentaires à Gaza seront épuisées d'ici 2 semaines. Au Liban, 6 personnes sont mortes ce jeudi dans des frappes israéliennes. L'État hébreu affirme avoir visé des combattants du Hezbollah pro-iranien. Dans ce contexte, le gouvernement libanais a nommé un nouveau gouverneur à la Banque du Liban, un poste clé en prévision des négociations avec le Fonds monétaire international pour le déblocage d'une aide financière. Karim Soued succède ainsi à Riyad Salamé, qui est incarcéré depuis septembre dernier et qui fait l'objet de nombreuses enquêtes. À Beyrouth, la correspondance de Paul Khalifé.
Karim Soued, un gestionnaire de fortune diplômé de la prestigieuse université américaine de Harvard, était le candidat favori du président Joseph Aoun. Le premier ministre Nawaf Salam s'est opposé jusqu'à la dernière minute à sa nomination, justifiant sa position par sa priorité de rendre aux déposants leurs épargnes, bloquées par les banques depuis plus de 5 ans. En 2023, Karim Soued avait appuyé une proposition de sortie de crise élaborée par un institut rattaché à Harvard. Le plan préconisait une ponction substantielle sur les dépôts bancaires en faisant assumer l'essentiel des pertes aux déposants. Une tâche titanesque attend le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il doit accompagner le gouvernement dans l'élaboration des textes législatifs nécessaires au lancement des réformes exigées par la communauté internationale. Il doit aussi jouer un rôle clé dans la restructuration du système bancaire et la répartition des pertes causées par l'effondrement économique et financier de 2019, estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le nouveau patron de la Banque du Liban doit aussi participer à un nouveau cycle de discussions avec le FMI pour permettre au Liban de souscrire à un programme d'assistance et réunir quelque 11 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction des zones détruites par la dernière guerre. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI.
Emmanuel Macron souhaite le voir revenir en homme libre. Le président français a appelé les plus hautes autorités algériennes à libérer Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné jeudi à 5 ans de prison ferme par un tribunal en Algérie. Paris accueille en ce moment le festival Afrique Capitale. La vitalité et la créativité de la ville de Dakar sont mises à l'honneur dans la capitale française. Pour ce faire, la danseuse et chorégraphe Germaine Akoni fait partie de la composition de festival. Isabelle Chenu l'a rencontré.
Germaine Akoni est une référence de la danse contemporaine africaine. À 80 ans, elle continue de pratiquer son art, qu'elle qualifie de don, et de transmettre à la jeune génération, partageant une technique à laquelle elle a donné son nom.
Ma technique, c'est l'élégance, c'est l'enracinement, c'est la fierté. C'est prendre des influences d'ailleurs, mais le rester soi.
Germaine Akoni, ou la danse dès le plus jeune âge.
Ma grand-mère était une prêtresse yoruba, danseuse, et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup inspirée dans le travail, dans ma créativité.
Venue se former à Paris à la fin des années 60, elle est la seule danseuse noire de son cours de danse classique. Elle prend conscience de son corps différent, met au point des apprentissages qu'elle transmet depuis 2004 au sein de l'École des Sables, près de Dakar, un village de la danse unique en son genre.
La technique à Cogny, et pour moi, c'est le reflet de la nature. Je fais la grenouille, le baobab, le capoquier. Vous savez, le capoquier qui est le fromager, c'est le symbole de ma technique. Le fromager est énorme, avec des racines qui s'envolent vers le ciel.
Un destin exceptionnel et un souci du partage intact pour Germaine Akoni.
Le festival Africapital, c'est à vivre à Paris jusqu'à la fin de la semaine. RFI, il est 23h10 à Dakar, une heure de plus ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.